Et on va accueillir deux photographes, Alexandra Sismil et Sourinski, qui sont toutes les deux en recherche. Pour le moment, je vais juste te dire sur les scènes, hein, trois petits points, et je vais les laisser définir l'objet de leur recherche photographique.
Donc, ça, c'est un sujet que travaille Alexandra depuis quelques années déjà. Alexandra, elle a plusieurs diplômes en art plastique. Elle a également un master esthétique art et sociologie de la culture. Et elle est enseignante en photographie à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Et au fait, comme vous avez vu, elle s'y connaît un peu dans le monde des skinheads. Alexandra, comment est-ce que tu as choisi ce sujet? Et oui, qu'est-ce que...
Alors, en fait, quand j'étais à l'université, en master, donc, j'ai écrit un mémoire sur le devenir enfantin de l'art contemporain, l'âge d'or de l'adolescence. Et donc j'avais toute une partie sur Larry Clark et Templeton, donc qui font des images, donc des films en l'occurrence pour Larry Clark, ainsi que de la photographie, et Templeton qui est donc skater pro qui fait aussi de la photographie et de la peinture. Et en arrivant aux Beaux-Arts, en fait, j'ai voulu continuer ce travail sur l'adolescence, et j'ai photographié mon frère. Donc je vais revenir en arrière, donc c'est lui. J'avais présenté ces images comme ça. Donc, il porte un polo Fred Perry. À l'époque, il commençait à être très, très influencé par les cultures populaires britanniques. Et en proposant ces images de cette manière, on m'a demandé si c'était un skin et si il était faf. Alors, moi, à l'époque, j'avais déjà quelques copains skin et ça m'a assez. Enfin, je trouvais ça assez drôle qu'on me pose la question. Et du coup, j'ai voulu commencer à travailler sur ce sujet, et surtout avec les codes vestimentaires. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, du coup, les skins étaient reconnaissables, de par leur coupe de cheveux, et aussi tous les vêtements et les marques, en fait, qu'ils portent. Donc j'ai commencé à décortiquer tous ces codes, tout simplement. Et le deuxième boulot que j'ai proposé, c'était ça. J'ai photographié donc plusieurs skins dans deux, trois villes différentes, et j'ai demandé à ce qu'ils portent à chaque fois un polo Fred Perry. J'ai fait un petit jeu, c'est que j'ai retourné l'image. Normalement, le laurier est sur le cœur, et là j'avais inversé l'image exprès pour mon projet. Et ça, c'était là, j'étais en troisième année en fait d'école d'art. Et ensuite, j'ai continué en quatrième et cinquième année. J'ai commencé tout un travail documentaire. À la base, c'était plus sur les sous-cultures. Donc, j'avais photographié des gens de la scène rockab. Je m'intéressais aussi aux modes et tout. Et finalement, j'ai préféré rester sur les skins. J'ai également fait une petite vidéo que je ne vous montrerai pas, mais juste quelques images, où j'avais demandé en fait à des skins de danser le Madison sur Booker T and the MGs, sur Green Onions, devant les anciens abattoirs de Nancy. Voilà, en fait, j'ai tout un travail photographique, mais je fais aussi de la vidéo. Il y a d'autres choses qui m'intéressent et pas seulement l'image. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler que de l'image. Donc, j'ai commencé aussi à je me suis intéressée vraiment aux détails. J'ai commencé à, j'ai photographié déjà des copains et ensuite des copains de copains. Parce que ça se passe comme ça, on va pas chez les gens comme ça, on rentre pas en interaction aussi facilement. Dans les scènes comme ça, très, très identifiées, il faut être soi-même identifié et accepter. Du coup, j'ai commencé à photographier les gens de plus en plus. Enfin, j'aime autant les photographier à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Et justement, ces personnes dans tes photos, tu m'avais dit que quand tu as montré, comme tu as dit, tu as montré les photos et les gens avaient une image toute faite sur ces gens. Donc, mais ça, si j'ai bien compris, c'est pas du tout c'est que tu as vécu. Les gens dans ces photos font partie de la scène skin, mais est-ce qu'ils sont politisés?
Moi, les gens, j'essaie en tout cas de... J'ai pas un travail, on va dire, politique, j'ai plus un travail plastique et sociologique. D'ailleurs, je travaille avec Gilda.
Les gens.
Mais les gens que je photographie sont sharp. sont antiracistes. Alors, tout ce qui est frange d'extrême droite, je ne photographie pas. Ça ne m'intéresse pas parce que mon travail ne... Enfin, comment dire... C'est une partie qui est très visible, qu'on a beaucoup retrouvée dans les médias, et qui, pour ma part, je trouve pas intéressante, parce que c'est pas ce dont j'ai envie de parler.
Ouais.
J'ai pas envie, là, pour le moment, j'ai pas envie de parler de politique, même si la politique revient toujours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la culture. C'est les vêtements, la musique, les attitudes, les rapports aussi, le moment du concert, qui est un moment de rassemblement où il se passe des trucs assez fous, comme dans toutes les scènes, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas...
Tout à fait. Et au fait, les codes vestimentaires sont très... c'est sophistiqué, n'est-ce pas?
Oui.
Oui.
Oui, c'est très précis. Il y a des marques, des vêtements avec certaines coupes. On les porte d'une certaine manière aussi.
Ok. Donc, oui, passons au concert. On va regarder ces choses, ces photos de concert. Parce que aussi, c'est une technique autre photographique. Elle est sans flash. Elle est très discrète.
Je fais que de la photographie argentique. Alors, juste avant de commencer sur ça. En fait, quand je vais chez les gens, j'utilise un appareil photo qui est assez gros. C'est du moyen format. Et quand je suis à l'extérieur en concert, notamment, j'utilise un boîtier qui est beaucoup plus petit, un 35 mm, qui me permet d'être plus mobile, plus légère et plus discrète. Et en même temps, il y a un rapport autre. Quand on arrive chez les gens avec un gros boîtier, avec un pied, ça instaure quelque chose qui est assez particulier et qui m'intéresse aussi.
Peut-être pendant qu'on regarde ça, tu peux parler de ce qui t'inspire dans ces photos. Parlez de ce que tu as vu et capturé.
Donc là, ce ne sont que des photos faites à Nantes, pendant les concerts de Oi. Et donc, ce qui m'intéresse, ce sont les corps, les mouvements, les lumières, aussi l'aspect, on le verra un petit peu plus tard, c'est assez impressionnant quand on voit toute une foule de crânes rasés regarder un concert. Il y a une espèce de dynamique qu'on ne retrouve pas forcément dans mes images d'ailleurs, qui sont plutôt calmes.
Oui, mais au fait, tu m'as parlé au fait de ce conformisme, c'est quelque chose, conformisme, ils choisissent d'être dans cette communauté, ils choisissent le code vestimentaire, mais quand on voit toutes ces têtes avec le même tête rasée, etc.,
Il y a un mimétisme, il y a des gestes qu'on retrouve en fait à chaque concert,
ils sont ensemble, mais ils sont très sages, on dirait.
Non, mais là, sur les images, ils sont très sages, en vérité, non. Okay. Non, mais en fait, il y a un truc à la fois très individuel et très collectif. Là, c'est un moment que, chaque concert est comme ça. On vient tous là écouter de la musique. On ressent tous du plaisir et à un moment donné, on le partage avec son voisin. Et là, c'est communicatif, quoi.
Oui, absolument, absolument, on voit ça. Mais aussi, on voit aussi une sorte de rapture d'une adoration.
Mais je pense que ça, on le retrouve dans partout.
Oui, ça fait partie de ce qu'on fait dans un concert et une certaine communion.
Oui, mais complètement. Ouais. Et la communion, elle est vraiment intense. Et en fait, on le retrouve dans ces scènes-là. Enfin, je parle des scènes underground plus en général, parce que le rapport entre la scène et le public est déjà différent. La scène est plus basse, ou des fois le groupe joue à la même hauteur que le public, et du coup, là, il se passe un échange qu'on trouvera jamais dans une très grande scène. Mmh. Voilà.
Oui, c'est la scène underground. Voilà, c'est plein d'énergie là. Au fait, tu m'avais parlé quand on a discuté de l'idée de l'anonymat, et je pense que même dans ces photos de concert, je vois ça parce qu'au fait, tu les prends de derrière, mais bon, ça peut-être pas juste pour l'anonymat, mais au fait, oui, on a l'impression de voir une culture qui est pas vraiment conformiste mais identique et l'anonymat humain est dans tes photos mais aussi c'est une partie nécessaire pour ce travail.
Bah, pour les photos de concert, pour moi oui, parce que quand je connais pas les gens, j'ai pas envie que mon travail en fait leur porte préjudice dans leur vie professionnelle, par exemple, parce que ça peut arriver. Mais quand je vais chez les gens, non, là, en effet, il y a un accord entre nous, et je les photographie à visage découvert sans problème. Mais quand je vais en concert, je fais en sorte qu'on ne reconnaisse pas les gens. En tout cas, la plupart du temps, aussi. C'est un choix de ma part.
Donc, avec ce travail, tu es en train de préparer un livre. Et là, la maquette, la mise en page est là. Elle va nous montrer un peu les pages.
Continue,
j'adore les détails des vêtements là. Au fait, il y a une précision.
Ça, c'est la maquette.
Ouais.
J'ai travaillé avec un copain graphiste, mais c'est vraiment, vraiment qu'une maquette pour le moment.
Et au fait, c'est un travail qui est, donc c'est plasticien et documentaire, mais c'est ta vision d'artiste. Mais tu me disais, c'est toujours un dilemme pour moi aussi. Quelque chose est forcément un peu documentaire, mais en même temps, comment faire la différence entre ma vision, ta vision et la photo esthétique, etc. Et aussi, toi, tu vois, tu ressens très vraiment une dimension sociologique dans ta démarche aussi.
Alors, j'ai choisi, en fait, de mélanger plusieurs typologies d'images, plusieurs natures. Donc, c'est-à-dire que j'ai des images qui peuvent être très posées, où les gens, voilà, posent concrètement pour moi, des images beaucoup plus spontanées, des détails, des choses qui peuvent être plus léchées que d'autres, en termes de photographie techniquement en parlant. Parce que je trouve que pour parler d'une scène, pour parler d'un groupe de personnes, ça me paraissait plus légitime, plus logique en fait de mélanger plein de choses. L'être humain est complexe, donc il y a plusieurs facettes que j'ai envie de montrer et pas toujours avec le même type de photo. Voilà, c'est donc il y a forcément un parti pris esthétique. Moi je travaille en argentique, donc il y a aussi les couleurs sont moins flashy, par exemple, qu'en numérique. Il y a du grain, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment aussi un choix personnel.
Et où est-ce que tu en es avec ce projet? Tu vas faire le livre et tout ça. Et est-ce que il y a une suite de ce projet-là ou est-ce que...
Alors déjà, ce serait de terminer le livre. Parce qu'en fait, pour le moment, j'ai pas l'impression d'avoir... couvert tout, il me manque des photos. Enfin là, vous n'avez vu qu'un petit aperçu parce que j'ai plus de 200 images, mais il manque encore j'ai des images en tête que je retrouve pas encore dans mon travail, que j'ai pas encore pu faire parce qu'il faut que les gens soient libres. Voilà, je suis quand même vachement dépendante des concerts et des personnes.
Tout à fait.
Et en fait, j'aimerais poursuivre la recherche, en fait, un travail de recherche, un doctorat, soit plastique ou enfin encore à, faut encore que je détermine tout ça, mais j'y songe.
Donc pour résumer, au fait, donc tu as commencé avec une idée d'adolescence qui est de par ton milieu, de par ce que tu as découvert en continuant de faire les photos, à même commencer à porter du Fred Perry toi-même, etc. Au fait, le projet a évolué. Et puis maintenant, voilà aussi, tu vois, je mettrai ceci, je mettrai éventuellement cela, je poursuivrai peut-être un travail un peu sociologique. Et ça me rappelle, dans la recherche visuelle, Sarah Pink, qui a écrit, vraiment mis ensemble la méthodologie d'une recherche visuelle ethnographique, elle parle du fait que dans la recherche visuelle, comme dans la plupart des recherches, mais surtout visuelle, au fur et à mesure, la méthodologie change, le projet change, et il faut être flexible pour changer avec.
Non, mais le projet, de toute façon, évolue parce que ça fait depuis 2006. Moi, j'ai commencé en 2006, donc 12 ans. Je fais déjà plus les mêmes images qu'il y a 12 ans et j'ai plus le même regard. Des fois, je vais même rechercher des vieilles photos parce que ce qui est chouette avec l'argentique, c'est qu'on peut retrouver ses négatifs et retourner, replonger dedans Et finalement se dire, bah finalement cette photo-là que j'avais un peu moins bien cadrée, bah elle raconte plus de choses, on a plus de distance. Et mais moi j'ai envie de poursuivre ce travail, on va dire de l'enrichir intellectuellement. Enfin, on le fait ensemble avec Gilda, mais aussi de poursuivre plastiquement.
C'est pas un sujet de recherche en fait.
J'ai fait des études d'art, je suis plasticienne, oui. Je suis pas.
Oui, tout à fait. Et c'est toujours moi aussi, je rencontre cette chose. Et tu as parlé au fait de pouvoir revenir regarder plus tard, parce qu'avec le recul, on voit mieux ce qu'on est en train de faire artistiquement aussi. D'accord. Ok, je pense qu'on peut poser des questions. Tu as autre chose à dire?
Non.
C'est bravo. Bravo, Alexandra.
La question, c'est est-ce que, comme c'est un travail sur la durée, de ne pas, entre guillemets, regretter de ne pas prendre des photos aujourd'hui, quitte à ne pas les sortir, et de les sortir dans 10 ans, par exemple, des photos de gens en concert? Par exemple, si tu voulais faire des portraits de gens en concert que tu veux pas les sortir parce que au niveau de discrétion, vie privée et tout ça, mais en tout cas ça te fait un archivage pour 10 ans, 20 ans ou pas.
Oui, parce que je réfléchis pas comme ça, dans le sens où je pense à maintenant. Enfin, voilà, je me projette pas parce que j'accumule les images, donc je me suis pas projetée de cette manière-là. J'y ai pas pensé du tout. Par contre, c'est une bonne idée, mais je sais pas si. Enfin, oui, j'ai pas pensé à ça du tout. Mais merci pour l'info.
J'avais une question, Alexandra, sur les dress codes. Donc, comme tu as dit, c'est assez conformiste, assez bien cadré. Est-ce que ça évolue?
Conformiste,
où il y a des normes, normées, est-ce que malgré tout ça évolue dans le temps? Est-ce que, je sais pas, à travers les couleurs, les coupes
Oui, ça évolue, il y a des marques, par exemple maintenant c'est plus classe de porter une chemise Brutus qu'une chemise Ben Sherman. Il y a des évolutions, c'est des micro-évolutions. Il y a le look, on va dire 60-70, ressort vachement maintenant, avec des pulls à motifs, portés avec des chemises à carreaux, des chaussettes colorées. Quand on voit les années 80, en France par exemple, les années 80-90 en France, c'est le look oi qui ressort, donc c'est plus bomber, pantalon bleaché, doc, je sais pas combien de trous, le plus haut possible, t-shirt, Lonsdale, sweatshirt et tout, c'est plus, on va dire, casual, alors que le look, on va dire, 60, presque 70, revient. Et avec des couleurs, on va dire, plus chatoyantes, comme l'orange, mélangé avec du bleu ciel, enfin voilà. Y a des...
Et si je peux me permettre, par rapport aux marques, Fred Perry, tout ça, est-ce qu'il y a un retour, par exemple, comment la marque propose des vêtements? Est-ce que ça se fait aussi avec un échange avec la scène, certains acteurs, des groupes, j'en sais rien, ou est-ce que c'est simplement ils font ça indépendamment et puis en tant que skin tu adoptes ou pas les nouveaux choix qui sont proposés par un fabricant? Est-ce qu'il y a un aller-retour en gros entre le fabricant et les gens qui portent les vêtements?
Alors on n'est pas en Angleterre, je ne sais pas comment ça se passe en Angleterre, mais par exemple on va prendre Doc Martens. Doc Martens a utilisé les photos de Gavin Watson. Donc Gavin Watson, qui a été skin quand il était jeune, photographie tous ses potes, sa famille et tout. Et en fait, il continue, il fait encore des images. Et Doc Martens en 2010 et 2012, ont utilisé les images de Gavin Watson pour leur com. Pour leur publicité. On voit les deux gamins assis, comme ça, et en fait, ça a été utilisé par Doc Martens. D'ailleurs, Fred Perry aussi a tout un... Si on va sur leur site, ils ont tout un truc, c'est marqué subculture. Ils ont même fait toute une... À un moment donné, une com sur les polos. Les polos, les différentes couleurs de polos correspondaient au skin, à la Northern Soul, à des époques, en fait. Voilà, en fait, les marques anglaises, mais parce que eux, en fait, ont complètement assimilé leur sous-culture, eux en jouent concrètement.
Bonjour. Je voudrais revenir juste sur le lien politique. Alors, il n'y a pas de choix politique dans le sujet. Par contre, ce ne sont que des écharpes qui sont...
Ou des apos.
Ou des apos. Mais alors...
J'ai même des fois de si, au tout début, j'avais des gens d'extrême gauche, quoi, mais des raids. Mais...
Et donc, sur l'idée esthétique, qu'est-ce qui différencie justement le côté écharpe et du coup plutôt d'extrême droite? Est-ce qu'il y a vraiment une sous-culture skin esthétique liée au sharp qui est intéressante du coup visuellement, ou alors là du coup c'est plutôt, on revient au choix politique d'aller que sur du sharp et du apo? Donc je me fais pas parole, et à quoi ils servent?
Non mais en fait ils sont déjà en tout cas quand les gens d'extrême droite étaient lookés skin, enfin ou tentés, c'était pas du tout si je puis me permettre, de bon goût. Il y a un côté plus guerrier qu'on retrouve pas, je trouve, chez le sharp, qui est quand même beaucoup plus classe, mais pas que. Je peux pas être aussi catégorique en fait là-dessus. Il y a eu le port du treillis, mais comme des skins qui étaient aussi à peau dans les années 90 ont dû en porter. Si on remet ça à l'heure du jour, de toute façon les gens d'extrême droite sont plus habillés comme des hipsters que comme des skins, donc aujourd'hui. Non merci.
Eh ben, je voulais poser la question quand tu viens de dire les skins, quand ils ont essayé de les extrêmes droits, quand ils ont essayé, tu as dit quand ils ont essayé de s'habiller skin. Donc ça me fait penser à cette scène-là. Est-ce que c'est une scène qui est plus autour d'une musique ou d'une culture que ces gens partagent ensemble? Et au fait...
Il y a forcément une musique, donc il y a la scène Oi,
oui.
Et puis il y a tous les gens qui s'intéressent à la scène, on va dire, jamaïcaine, donc qui écoutent du skinhead reggae, du ska, du rocksteady. Il y a des gens qui écoutent les deux, et il y a des gens qui sont vraiment... moi j'ai rencontré des gens qui étaient complètement anti-Oi, voilà.
Oui, mais au fait, donc, à la base, ces gens, oui, c'est au fait leur attention à la mode, à leur look... c'est au fait un choix esthétique et entre eux, quoi.
C'est un choix esthétique. Oui. Je pense que si on s'habille comme ça, c'est parce que ça. Enfin, quand quelqu'un s'habille comme ça, c'est que ça lui plaît déjà. Oui.
Et peut-être les premières images.
Mais peut-être au-delà de ça, je pense qu'il y a déjà un rapport à la musique, concrètement. Enfin, et au rapport aussi au groupe, aux copains, à traîner dans la rue. À faire chier les autres, ou pas, j'en sais rien, mais il y a un truc, voilà.
Oui, mais je vais dire qu'en fait, ils s'habillent pas pour faire peur ou pour faire...
Si, bien sûr.
Okay.
Si.
Oups.
Oui, j'avais juste une question, quelque chose qui me fascine, mais qui est, je trouve assez stimulant, mais c'est que finalement, j'avais abordé, c'est vraiment un sociologue. Excusez-moi, c'est un peu théorique, c'est un truc de sociologue, mais en même temps, c'est important, c'est que finalement, on a l'impression que t'essayes, parce que c'est quand même une culture populaire, et donc t'essayes de la considérer comme une... Enfin, d'un point de vue, comme tu viens des Beaux-Arts, t'essayes de montrer que ça a une pertinence esthétique ou artistique au même titre que des expressions culturelles plus légitimes ou considérées comme qui ne doivent pas être discutées, parce que voilà, il y a une valeur... il y aurait une valeur intrinsèque, etc. Toi, tu essayes de dire, mais quelque part, les subcultures, on peut aussi essayer de les analyser comme ça. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Est-ce que je me trompe ou pas?
Non, mais plastiquement, esthétiquement parlant, c'est clair, il y a vraiment un intérêt qui est évident. Je veux dire, photographier un skinhead, c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais les gens qui sont très très lookés ou qui dégagent un truc comme ça très fort, c'est forcément fascinant. Il y a forcément un intérêt. Il y a de l'intérêt aussi dans ce cas-là, dans toutes les pochettes d'albums, dans toutes les typos utilisées, toutes les photos qui sont montrées, qui sont mises sur les albums. On pourrait faire une analyse de toutes les images qui ont été produites. C'est hyper intéressant de retrouver toujours les mêmes choses. Ou pas, d'ailleurs, des fois, il y a des gens qui font des choses totalement différentes pour se démarquer de l'héritage. Et en même temps, c'est une scène qui rejoue sans cesse, en fait, l'héritage, qu'il soit visuel ou musical, ou des fois qui arrive à aller plus loin.
Ma question est, y a-t-il un problème avec les coiffeurs, le professionnalisme du capillaire parmi ces jeunes gens qui ont un peu le bras, qui ont tendance à lever un peu le bras peut-être pour se gratter le haut du crâne, ça pousse-t-il peut-être de l'intérieur? Donc un clonage vestimentaire et peut-être de situation, parce que y a un truc qui me dérange. Moi, dans ma jeunesse, quand je l'ai croisé, dans la rue, effectivement, il y avait un dédoublement de personnalité, c'est que c'était eux contre moi. Hein, la loi du plus fort. Donc c'était contre les punks, à vrai dire, quoi. Pas que moi. Mais l'extrême gauche, l'extrême droite là-dedans, effectivement. Après, c'est tendancieux aujourd'hui. Bon, voilà. C'est. Ouais, bon, on a un exemple précis dans le premier rang qui pourrait mieux en parler que moi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir montré et discuté ce travail. Merci.